l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Exactement 6h15 à Bukavu, ce lundi 15 juin 2026. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres. Les réactions ne cessent d'être recensées après la répression de la manifestation de l'opposition vendredi dernier à Kinshasa. Des organisations comme Sauvons la RDC, dirigée par Joseph Kabila, Human Rights Watch, la nouvelle société civile congolaise, et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege exigent l'ouverture immédiate d'une enquête internationale. Et la société civile de Fizi demande aux parties impliquées dans les affrontements au niveau des hauts et moyens plateaux à protéger les civils, à respecter le droit international et le cessez-le-feu pour lequel elles ont souscrit. Cette structure formule ses recommandations à la suite de l'intensification des bombardements à Minembwe et Mikenge la semaine dernière. Et 144 décès dus à la rougeole ont été enregistrés en moins de deux semaines dans la zone de santé de Shabunda. Selon la société civile de Shabunda, cette maladie risque de décimer la population car elle se propage rapidement. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Bon début de semaine à tous. Le mouvement Sauvons la RDC, plateforme dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, condamne la répression du sit-in de la coalition C64 tenant le président Tshisekedi ainsi que l'ensemble de la chaîne de commandement civile, policière et sécuritaire pour personnellement, politiquement et pénalement responsable. Dans un communiqué signé par Maître Moïse Nyarugabo, le mouvement accuse la force du progrès, qui décrit comme une milice notoirement connue comme faisant partie de l'UDPS, d'avoir participé à la répression, soulignant que sa création constitue une violation de l'article 190 de la Constitution qui érige en crime de haute trahison la formation des milices privées. Face au silence du chef de l'État, le mouvement estime que son inaction est un aveu de complicité et exige l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante. Pendant ces temps, la dynamique des mouvements citoyens congolais regroupant, notamment la lutte à Filimbi et plusieurs autres mouvements citoyens, a condamné avec fermeté la répression du sit-in de la coalition C64 du 12 juin, dénonçant des arrestations arbitraires, des blessés parmi les manifestants et des vidéos montrant, selon elle, des corps sans vie emportés par des individus en civil vers des destinations inconnues, comme la Voix des Sans-Voix et la nouvelle société civile congolaise. Human Rights Watch appelle les autorités congolaises à mener une enquête indépendante, impartiale et transparente sur les violences enregistrées lors de cette manifestation. Il est inacceptable que le régime de Kinshasa mobilise et instrumentalise l'armée, la police et une milice privée du parti présidentiel pour tirer sur des citoyens et brutaliser les leaders de l'opposition, a écrit le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Il appelle à une mobilisation internationale contre ce qu'il décrit de coup d'état constitutionnel en gestation. Dans un communiqué publié samedi, le gouvernement congolais condamne les incidents survenus lors de la manifestation de l'opposition organisée la veille à Kinshasa. Il annonce l'ouverture des enquêtes pour établir les circonstances exactes des faits et appelle les acteurs politiques à la retenue et à la responsabilité. De son côté, le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, fustige la violence ayant émané cette manifestation. Je cite, « Les débordements violents, l'usage excessif de la violence qui aurait entraîné jusqu'à la perte des vies humaines et le saccage des sièges des partis n'ont pas leur place en démocratie. La liberté de manifester pacifiquement son opposition est un principe essentiel dans le respect des lois de la République. Nous prenons note avec satisfaction de l'enquête annoncée et espérons que les autorités pourront faire la lumière objective sur les déroulés des événements et sur les responsabilités des auteurs des violences, d'où qu'elles proviennent, a écrit Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères. Et l'Union européenne a pris position sur les événements du 12 juin à Kinshasa. Dans un message publié sur X, le porte-parole de la délégation de l'Union européenne en RDC, Anouar El Anouni, a déploré les violences, les morts et les blessés graves enregistrés lors de la dispersion du sit-in de la coalition C64, rappelant que l'espace démocratique inclusif implique l'attachement aux libertés fondamentales, dont la liberté de manifester pacifiquement dans le cadre de la loi, tout en saluant l'initiative des autorités congolaises à la transparence et à la poursuite des auteurs des troubles. L'Union européenne les a exhortés à faire toute la lumière sur ces événements en vue d'un apaisement de la situation. Et trois personnes kidnappées, à savoir le chauffeur d'un véhicule Fosso et deux passagers, plus de 15 motos en provenance des Casib à piller, bilan d'un braquage enregistré hier dimanche matin dans les escarpements des Nyanfonzé en territoire de Walungu. Les assaillants ont pris la destination de Ngali. Les personnes kidnappées ont été libérées l'après-midi selon des sources sur place. Et les combats se poursuivent dans les hauts plateaux du sud Kivu, notamment dans les territoires de Fizi et de Mwenga, entre les forces armées de la RDC et l'AFC M23 Tuaneo. Plusieurs localités ont été touchées ces derniers jours, provoquant des nouveaux déplacements des populations et d'importants dégâts matériels. Les détails avec Alain Kabika.
Dans un communiqué consulté par Radio Maïndélé le week-end dernier, les forces armées de la RDC affirment avoir repris les contrôles de la localité de Mikenge dans les hauts plateaux de Fizi Uvira à l'issue des violents combats. L'armée congolaise accuse les forces adverses d'avoir détruit des infrastructures publiques et privées, pillé les biens des civils et emporté du bétail lors de leur repli. De son côté, sur son compte X, les porte-parole de l'AFC 123 Laurence Kanyuka accuse les forces gouvernementales d'avoir bombardé à deux reprises. De son côté, sur son compte X, les porte-parole de l'AFC 123 Laurence Kanyuka accuse les forces gouvernementales d'avoir bombardé à deux reprises les centres de Minembwe vendredi 12 juin à l'aide d'avions de chasse Sukhoi-25. Le mouvement AFC 123 affirme que ces frappes ont causé plusieurs victimes civiles et détruit de nombreuses habitations. Face à la détérioration de la situation, la société civile Force Vive du territoire de Fizi déplore la poursuite des hostilités malgré les appels au cessez-le-feu. Elle appelle toutes les parties au conflit à protéger les civils, à respecter les droits internationaux humanitaires et à honorer leurs engagements en faveur de la cessation des hostilités. On écoute à ce sujet Maître Jacques Alimassi, président de la société civile dans le territoire de Fizi.
Nous réitérons notre appel, allant dans le sens d'appeler toutes les parties au conflit des privilèges ou de protéger la population et de respecter les droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme et de respecter les différentes déclarations conjointes qu'ils ont signées dans le cadre du cessez-le-feu. Les renforcements des suivis pouvaient être nécessairement accélérés pour voir si la situation peut s'améliorer. Dans les hauts plateaux territoires de Fizi tout comme de Mwenga, la situation reste très très compliquée et surtout la situation humanitaire.
Celui-ci demande également les renforcements des mécanismes de suivi du cessez-le-feu, estimant que la situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante dans les territoires de Fizi, Mwenga et les hauts plateaux d'Uvira.
Et les partenaires œuvrant dans le secteur humanitaire sont appelés à redoubler d'efforts et renforcer leur unité pour mieux faire face aux urgences qui s'imposent en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est et dans la province du sud Kivu. Parmi ces urgences figurent les catastrophes naturelles comme les inondations, les déplacements massifs des populations suite aux conflits armés, ainsi que les épidémies comme la maladie à virus Ebola et le choléra. Cette exhortation est de Désiré Youm Mamachumu, président provincial de la Croix-Rouge Sud Kivu, en marge de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Célébrée le 8 mai de chaque année, la commémoration a été reportée à la suite des urgences humanitaires qui se sont présentées en province, notamment les inondations dans la ville d'Uvira. Dans son discours à cette occasion, le président provincial de la Croix-Rouge Sud Kivu a rappelé que cette célébration est un moment qui rappelle l'engagement de tous les volontaires et les humanitaires qui œuvrent pour le bien-être des populations vulnérables, conformément à la vision de Henri Dunant, fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Désiré Youm Mamachumu appelle ainsi les volontaires à demeurer dans les principes d'humanité, d'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité pour mieux servir les plus vulnérables. On l'écoute.
Cette commémoration est également une opportunité de réaffirmer notre engagement collectif en faveur du respect de la dignité humaine, conformément à la vision portée au niveau national, régional et global par le mouvement. Dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement dans ma province, nous célébrons cette journée du 8 mai dans un contexte particulier marqué par les urgences sanitaires préoccupantes avec la maladie à virus Ebola et l'épidémie de choléra, en plus de la situation sécuritaire qui demeure également préoccupante, mettant quotidiennement au défi les acteurs humanitaires dans la zone. Et c'est pour nous une occasion de faire un rappel aux autres acteurs humanitaires, particulièrement les partenaires de l'accord de la République démocratique du Congo, pour une conjugaison des efforts humanitaires aux côtés des autorités politico-administratives afin de surmonter les défis humanitaires auxquels fait face actuellement ma province du Sud Kivu, notamment la maladie à virus Ebola, le choléra, la rougeole, les inondations, les mouvements de population et autres catastrophes naturelles.
Présente à cette cérémonie, la chef de la sous-délégation du CICR Bukavu, Eliane Chakwan, a également salué la collaboration de la Croix-Rouge provinciale et le travail abattu par tous les volontaires malgré le contexte actuel. Signalons que pour cette année, cette journée a été célébrée sous le thème « Unis dans l'humanité ». Et la zone de santé de Shabunda a enregistré 144 décès dus à la rougeole en moins de 2 semaines seulement. À cela s'ajoutent plus de 500 malades admis dans des structures sanitaires, notamment à l'hôpital général des références de Shabunda dans la province du Sud au Kivu. Détail Hélène Boudjiriri.
À en croire Maître Joseph Mpeseni, défenseur des droits humains dans cette zone, cette maladie risque de décimer la population car elle se propage rapidement, menace également les zones environnantes et aucune riposte n'est organisée. Celui-ci regrette de constater que malgré la gravité de la situation, aucune autorité sanitaire ne semble s'intéresser suffisamment à cette question alors que le nombre des cas ne cesse d'augmenter. Citant les responsables sanitaires, dans les 14 zones de santé qui comptent le territoire de Shabunda, Maître Joseph Mpeseni parle de plusieurs autres cas enregistrés dans des zones de santé voisines, notamment Lulingu, Mulungu et Kalole. Il plaide pour l'implication urgente des organisations humanitaires afin d'apporter une assistance médicale, renforcer la prise en charge des malades et organiser des campagnes de vaccination pour limiter la propagation de cette épidémie. Il en parle dans cet élément.
Nous sommes dans une situation très difficile en territoire de Shabunda, compte tenu de la maladie qui guette toutes les zones de santé du territoire de Shabunda. Nous déplorons le manque de suivi pour ces cas et de traitement. C'est à ce niveau-là que nous demandons à tous les humanitaires qui peuvent intervenir dans le cadre de la santé en territoire de Shabunda de bien vouloir le faire le plus tôt possible. Toutefois, nous demandons également au gouvernement de la République de pouvoir chercher un couloir humanitaire afin d'intervenir sur cette population. Nous ne cesserons pas de faire un rappel sur la situation enregistrée dans la zone de santé de Lulingu, zone de santé de Kalole et la zone de santé de Mulungu. Il y a plusieurs autres cas qui sont également en train d'être enregistrés et plusieurs décès qui sont enregistrés. Nous interpellons tout celui qui a la bonne volonté d'intervenir pour ce territoire qu'il puisse le faire le plus tôt possible.
Rappelons que d'autres alertes parlent de plus de 700 morts depuis février dernier dans cette partie du Sud Kivu suite aux maladies comme la rougeole et d'autres qui pourraient pourtant guérir si la prise en charge était bien organisée.
Et les habitants de la province du Sud qui vous sont invités à donner du sang aux structures sanitaires et aux centres de transfusion sanguine dans le but de sauver des vies humaines et de répondre aux besoins croissants en produits sanguins. Message lancé à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs bénévoles de sang, célébrée chaque 14 juin de l'année. Les précisions avec Alain Kabika.
À en croire le docteur Gisèle Chocano, médecin superviseur au programme de transfusion sanguine à la division provinciale de la santé, les dons de sang est vital pour la santé publique car il permet de soutenir les traitements médicaux et chirurgicaux complexes. Pour elle, la majorité des personnes qui nécessitent une transfusion sanguine sont souvent des femmes après accouchement, ainsi que des enfants de 0 à 5 ans, souffrant du paludisme, sans oublier certains malades atteints des cancers et les accidentés. Elle précise qu'être éligible au don de sang, toute personne dont l'âge varie entre 18 et 65 ans et dont le poids minimum est de 45 kg. La personne doit être en bonne santé, ne souffrant d'aucune maladie transmissible et présentant un taux d'hémoglobine normal. Le docteur Gisèle Chocano indique que le nombre des donneurs bénévoles de sang demeure encore insuffisant dans la Provence, une situation qui expose de nombreux malades à des difficultés d'accès à ces produits pour recouvrer leur santé. Tout en remerciant tous les donneurs de sang à travers le monde, elle appelle les autres bénévoles et toute la population à adhérer à cette démarche humanitaire en donnant régulièrement les sangs afin de contribuer à sauver des vies. Elle en parle dans cet élément.
Quelle est l'importance du don de sang? C'est pour sauver des vies. Sauver la vie d'une personne malade qui est en détresse, qui souffre d'une anémie, donc qui manque du sang, et pour les sauver, il faut seulement donner du sang. C'est important de donner des sangs parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun produit susceptible de remplacer le sang humain jusqu'à ce jour. Aussi, donner des sangs, c'est une preuve d'amour. Oui, c'est pour cela qu'on donne des sangs. Nous remercions surtout toutes les personnes animées de bonne volonté qui ont déjà compris l'importance du don des sangs et qui sauvent des vies chaque jour dans nos hôpitaux. Nous signalons aussi que les besoins est encore énorme, car il y a des moments que des hôpitaux manquent des poches de sang pour sauver des vies. Nous encourageons la population, ceux qui sont en bonne santé bien sûr et âgés de 18 à 65 ans, de s'approcher de nos hôpitaux et du CPTS pour savoir ce qu'il faut pour donner du sang. Alors tous, unissons-nous à ainsi sauver la vie de nos frères et sœurs qui en ont besoin dans nos hôpitaux.
Signalons que le thème retenu pour cette année est la solidarité et l'importance du don des sangs sécurisés, une thématique qui invite chacun à participer et à sauver des vies à travers ces gestes simple mais vital.
Nous parlons toujours santé. Les autorités sanitaires sont appelées à interdire l'utilisation des scanners dits Quantum qui sont à la base des faux diagnostics médicaux dans plusieurs localités du sud Kivu. Cette recommandation est contenue dans un communiqué de l'organisation Jeunes Nous Pouvons, consulté par la rédaction de Radio Mandeléo lundi 15 juin 2026. Dans ce communiqué, l'organisation affirme que des personnes se présentant comme des prestataires de santé utilisent ces appareils dans des villages et centres commerciaux de la province du Sud Kivu pour réaliser des examens facturés entre 2 et 5 dollars américains. En quoi Gaspard Bizimana, un des membres de cette organisation, les résultats obtenus conduisent souvent à la prescription des compléments alimentaires vendus entre 25 et 50 dollars, disponibles uniquement auprès des opérateurs concernés. Il indique avoir consulté des spécialistes de la santé qui considèrent ces appareils comme dépourvus de la base scientifique fiable. Face à cette situation, il appelle les acteurs de la société civile et les leaders communautaires à sensibiliser la population sur les risques liés à l'utilisation de ces appareils. Gaspard Bizimana invite les habitants à privilégier les structures sanitaires reconnues pour tout examen médical nécessitant un scanner et non se faire rançonner par ces faux guérisseurs avec des faux outils. Il en parle dans cet élément.
Face au ravage que cet appareil, ce faux scanner fait dans la communauté, nous comme plateforme Jeunes Nous Pouvons, nous avons demandé aux autorités d'interdire l'utilisation de cet appareil sur toute l'étendue du territoire national et aussi de sanctionner les contrevenants car ils mettent la vie de la communauté entière en danger. Ça, c'est la première suggestion. La deuxième, c'est aux acteurs de la société civile et leaders communautaires de pouvoir sensibiliser la communauté afin d'éviter ces faux médecins avec leurs appareils qui ne peuvent produire que des résultats incorrects. Et à la fin, nous avons suggéré aux habitants de ne pas se faire anarchiser que par ces faux résultats avec des médicaments qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que cela augmente considérablement les dépenses des ménages et accentue la pauvreté.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
Et dans le reste de l'actualité, les personnes atteintes d'albinisme doivent poursuivre la lutte en étant unies jusqu'à ce que leurs droits soient respectés au sein de la communauté. C'est notamment le droit à l'inclusion, l'acceptation et la participation à la gestion à tous les niveaux. L'appel est de Juvenal Louchoulé, coordonnateur de l'association pour la promotion et l'inclusion des albinos APIA, en marge de la journée de sensibilisation à l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année. Détail Myriam Mufano.
Dans un entretien avec Radio Maïdéléo, c'est lui fait savoir que les personnes atteintes d'albinisme continuent d'être discriminées au sein de la société. À ceci s'ajoute leur exclusion dans la gestion de la chose publique, alors qu'elles ont les mêmes capacités que d'autres personnes. Il estime que les efforts devraient être fournis à tous les niveaux afin de parvenir à une inclusion totale de personnes atteintes d'albinisme. Les coordonnateurs provinciaux de l'Association pour la promotion et l'inclusion des albinos sapiens sigle, Juvenal Louchoulé, en parle.
Nous avons trouvé que beaucoup d'enfants sont encore en train de passer les examens. C'est la raison pour laquelle nous avons projeté ça, mais ça sera ce mois bien sûr. Et le message pour cette année, nous voulons dire aux albinos ou aux personnes atteintes d'albinisme de continuer toujours de lutter ensemble parce que nous devons être unis, mais aussi aux autorités et à la communauté. La différence ne doit pas être une menace, mais une richesse. Les albinos ont droit aussi à l'inclusion dans les communautés, de cohabiter avec les autres. Et je demande aussi à tous les albinos d'être toujours forts et courageux ensemble.
Il annonce également l'organisation d'une activité de distribution des crèmes solaires aux enfants et à certaines personnes adultes atteintes d'albinisme juste après la passation des examens de fin d'année. Ainsi, le Chou les remercie les partenaires qui ont mis la main à la poche pour l'acquisition de ces produits et appelle d'autres à jouer d'eux-mêmes vu que les besoins demeurent énormes. Signalons que pour cette année, la journée de sensibilisation à l'albinisme est célébrée sous les thèmes « Fièrement dans ma peau, célébrant toutes les couleurs ».
Et parlons éducation à présent, apporter du réconfort aux malades et apprendre aux élèves l'esprit de générosité et de charité envers les autres. C'est l'essence d'un apostolat organisé samedi dernier par le collège Adora de Panzi en faveur des malades, réunis au sein des différentes communautés ecclésiales vivantes de la paroisse de Panzi. Pour le promoteur du collège Adora, patient Bagalokoko, les enseignements ne suffisent pas pour former les générations futures, d'où la mise en place d'un plan bien défini au sein de son école pour promouvoir la générosité. À cette occasion, plus de 150 malades ont bénéficié des vivres et non-vivres, composés notamment du sucre, pain, savon, gobelet et bassin. En quoi le promoteur du collège Adora, cet apostolat a été rendu possible grâce à la contribution des parents évalués à 25% et à celle de l'école qui a contribué à 75%. Patient Bagalois.
La mission principale de cet apostolat, c'est de donner cet amour que Dieu nous a légué. Alors il nous a légué l'amour, nous distribuons cet amour à ces malades. Au-delà de ça, nous apprenons à nos enfants à vivre la générosité toute leur vie. Quand ils seront bénis, ils vont être des grands, monsieur, eh bien il faudrait qu'ils comprennent que le collège Adora nous a appris à rencontrer les malades, à rencontrer les vulnérables. C'est ainsi que nous le faisons chaque année. Nous devons apprendre à former des enfants intégrales, des enfants intègres, des enfants complets, des enfants qui ne se limitent pas à la pédagogie.
La revue de presse, Radio Maïndélé Cap, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La multiplication des conflits entre bailleurs et locataires en raison de l'exigence illégale des garanties locatives dépassant les 3 mois prévus par la loi et l'exposition de la population d'ouvrir à des risques sanitaires favorisant des épidémies font partie des sujets commentés par la presse le week-end dernier. Myriam Moufano pour la revue de presse.
Débutons cette revue de presse par les souverains libres qui écrit qu'à Bukavu, les conflits entre bailleurs et locataires se multiplient en raison de l'exigence illégale des garanties locatives dépassant les 3 mois prévus par la loi. Dans un contexte déjà difficile marqué par la crise sécuritaire au sud Kivu, cette pratique accentue les tensions, la méfiance et la spéculation au sein des ménages. La situation est aggravée par les non-respects des préavis et les expulsions arbitraires. Un incident survenu le 11 juin au quartier Nyakavogo dans la commune de Bagera a illustré cette réalité lorsqu'un différend lié à l'exécution d'un contrat de bail a dégénéré en altercation entre un propriétaire et son locataire.
Selon le sociologue Marlène Iranga, contacté par ces médias, les incompréhensions liées à la cohabitation, notamment le partage des toilettes et des douches, ainsi que les désaccords sur les entretiens, alimentent fréquemment ces conflits. Pourtant, la loi congolaise, à son numéro 15/025 du 31 décembre 2015, encadre clairement le rapport locatif en limitant la caution à 3 mois des loyers et en protégeant les locataires contre les expulsions abusives grâce à des délais de préavis réglementés conclus les souverains libres. De son côté, Jambo RDC indique que la situation sécuritaire dans les territoires d'Idjui demeure préoccupante avec une recrudescence des actes de banditisme, de vol, de menaces et des intimidations dénoncées par la société civile. Cette insécurité persistante s'inscrit dans un contexte de crise humanitaire et de fragilisation du dispositif sécuritaire local, suscitant de fortes inquiétudes au sein de la population. Parmi les personnes affectées figurent Chance Abimana Loagera, défenseur des droits humains et président honoraire du conseil territorial de la jeunesse d'Idjui. Il affirme être victime de menaces répétées et rapporte une tentative d'intrusion armée à son domicile qui a été déjouée grâce à l'intervention rapide de ses voisins. Depuis cet incident, il dit vivre dans la crainte et être parfois contraint de s'éloigner de sa résidence pour assurer sa sécurité. Selon Didier Mouliri, approché par ces médias, plusieurs cas de tueries non élucidées ont été enregistrés entre les second semestre de 2025 et le premier semestre de 2026. Il dénonce également de menaces visant des acteurs de la société civile et des journalistes. Face à cette situation, la société civile appelle les autorités à renforcer la sécurité, mener des enquêtes approfondies et protéger les défenseurs de droits humains, les journalistes et l'ensemble des citoyens, conclut jambo-rdc.info. Bouclant cette revue de presse par KivuTimes.com qui écrit « La ville et les territoires d'Uvira demeurent fortement exposés à des risques sanitaires favorisant des épidémies récurrentes, notamment les choléras et les maladies diarrhéiques. Les inondations fréquentes, l'insalubrité, l'insuffisance des infrastructures d'assainissement et le manque d'accès à l'eau potable créent un environnement propice à la propagation de ces maladies, selon Justin Dakondi, approché par ces médias. La situation est aggravée par l'afflux de personnes, de places à cause des insécurités dans l'est de la RDC. Vivant souvent dans des conditions précaires avec un accès limité à l'eau potable et aux installations sanitaires, ces populations sont davantage exposées au risque des contaminations. Les perturbations des réseaux de distribution d'eau et les difficultés d'assainissement renforcent également la vulnérabilité des communautés locales face aux épidémies. Malgré les efforts des autorités sanitaires et leurs partenaires, plusieurs obstacles persistent, notamment le manque des ressources financières, l'insuffisance des infrastructures de santé et les défis liés à l'insécurité. Selon Bienengulu Pacifique Faïd Adoulia, contacté par ces médias, la prévention passe par le renforcement de la sensibilisation, l'implication des écoles, de médias et des leaders communautaires, ainsi que l'amélioration durable des conditions d'hygiène pour réduire les risques d'épidémie, conclut ce média.
Communiqué avant la fin de ce radio-journal, ce lundi 15 juin 2026, le monde célèbre le 21e anniversaire de la Journée internationale des luttes contre les maltraitances faites aux personnes âgées. Le thème choisi est, au-delà de la sensibilisation, faire en sorte que la prévention de la maltraitance des personnes âgées fonctionne. Cette année, la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées met l'accent sur la nécessité urgente de protéger et de soutenir les personnes âgées en cas de crise. Elle invite les gouvernements, les organisations de la société civile à donner la priorité à la sécurité et au bien-être des personnes âgées dans leur stratégie de préparation et des réponses aux situations d'urgence. Elle encourage le développement des politiques inclusives qui garantissent que les personnes âgées ne sont pas négligées pendant les crises. Wazewetuawe demande à toutes les familles, les confessions religieuses d'associer les personnes âgées dans le processus de prise de décision pour une bonne protection sociale concertée. En cette période d'épidémie d'Ebola, protégeons les personnes âgées en suivant le message de son Excellence Monseigneur l'archevêque de Bukavu aux autorités politico-administratives de garantir une vie digne aux personnes âgées, à toutes les personnes âgées de s'unir afin de réclamer leurs droits et de porter loin leurs cris de détresse. Faites à Bukavu le 14 juin 2026 pour Wazewe Tuawe, Abbé Jean-Claude Chiza, secrétaire exécutif ad intérim, signe ce communiqué. Par ici prend fin ce radio-journal. Anissa Konkwa a assuré la mise en onde. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Surtout, bonne semaine.